Bienvenue sur le podcast de Moodstep. Je suis Johanna Kellen, opératrice de turbine à bonheur. Et aujourd'hui, je reçois Jérôme Waron. Nous allons parler de leadership. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver toutes les informations, toutes les références que nous évoquerons dans ce podcast dans la description du podcast sur le blog Moodstep, moodstep.com ou sur iTunes, où je vous encourage fortement à laisser un commentaire ou une petite note, ça fait toujours plaisir. Retrouvons tout de suite Jérôme. Bonjour Jérôme.
Bonjour Johanna.
Alors, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler avec toi de comment développer son leadership. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises un peu quel est ton parcours.
Tout d'abord, merci beaucoup Johanna pour m'avoir invité sur ton plateau. Ça fait toujours plaisir de partager sur...
Mon plateau, waouh.
Oui, plateau podcast.
Oui, c'est ça.
Et je trouve ça toujours génial de partager, d'échanger sur ces sujets passionnants. Et pour répondre à ta question, j'aime bien le terme que tu as utilisé tout à l'heure en off, avant qu'on enregistre, le terme de « slasher ». Et c'est vrai que je me définirais comme un slasher quelque part, c'est-à-dire que pour résumer, je suis coach slash formateur slash web, j'utilise le web également. Donc trois casquettes. La première, donc de coach, c'est, on va dire, coach de vie et coach en entreprise, où j'accompagne les personnes à déployer leur potentiel, déjà à se connecter à ce potentiel pour mieux le déployer et atteindre leur objectif. Et tout ça, bien entendu, dans la bienveillance, le bonheur, la joie, etc. Et aussi donc, en entreprise, avec des compétences en particulier qu'on imagine, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, par rapport à la partie formation, donc, je fais des interventions en entreprise ou lors des événements sur des ateliers pour développer les compétences clés qui font qu'on est humain et différents en même temps, donc ces compétences humaines. Et aussi le web, j'ai cofondé deux entreprises dans ce domaine-là, lasemaine.com, où on organise des événements web justement et de la formation web aussi, et Créa Présent, dans laquelle on a à la fois du présentiel et du web aussi. Ouais, j'essaie de faire très bref.
Je crois que tu as oublié un slash. J'ai cru voir que tu étais auteur aussi d'un roman.
Oui, oui, encore notre slash, en effet. Oui, c'est vrai que j'écris pas mal. J'ai commencé à écrire à travers des blogs et depuis, je me suis élargi à des ouvrages. Donc, surtout des ouvrages, on va dire, de non-fiction liés au management et au leadership, notamment le Reflexive Skills chez Duno. Et c'est vrai que depuis deux semaines, mon défi, c'était de lancer mon premier roman pour le jour de mon anniversaire en mai, et je l'ai fait. Donc le premier ouvrage de fiction est sorti aussi.
Tu peux nous rappeler le titre ?
Oui, c'est 2020, la nouvelle civilisation.
Tout un programme.
Voilà, ça parle de comment ça se passe les deux premières semaines après la chute du capitalisme.
Ah, intéressant. Donc c'est une projection dans un avenir possible, on pourrait dire ?
Possible, non souhaitable, on va dire, mais possible si ça se passe, bien entendu. Après, bien entendu, l'idée, c'est d'offrir des perspectives positives, même si ce n'est pas une transition très agréable. Mais l'idée aussi, c'est que c'est un point de vue d'un entrepreneur. Forcément, quand on crée une entreprise, on est dans un système libéral et capitaliste. Et quand tout s'effondre, sur quoi on se repose ? Qu'est-ce qui reste après tout ça ? Donc, je trouvais que c'était un exercice intéressant.
Juste pour finir avec ton parcours, j'entends un petit accent. Je crois que tu vis à Londres, c'est ça ?
Oui, je vis à Londres, oui.
Et tu viens de ?
Et je viens de La Réunion.
Donc... Tu viens de La Réunion ? Mais ils n'ont pas un accent comme ça, La Réunion, quand même.
Ah bon ?
On dirait que tu as un accent du Sud, c'est marrant.
Ah ouais, du Sud, oui, La Réunion.
Du Sud de La Réunion.
Mais je viens de La Réunion. J'ai la Réunion. D'ailleurs, je suis reparti en vacances quelques semaines il n'y a pas très longtemps. Donc, peut-être que c'est pour ça que
c'est mon accent... C'est pour ça que tu as l'accent fort.
Voilà. Et que peut-être que dilué avec un quotidien en anglais fait que, en mixant les deux, ça fait un petit peu un accent du Sud. Et c'est peut-être pour ça.
Alors aujourd'hui, tu voulais qu'on parle de comment développer son leadership. Alors c'est un sujet extrêmement vaste. Déjà, avant de commencer, ou pour commencer, on pourrait même dire, on est de plus en plus, j'ai l'impression, dans une époque où il y a de la coopération, où on parle des entreprises libérées, où on parle de structures sans hiérarchie. Crois-tu que le leadership est quelque chose de nécessaire?
Oui, je pense que de toute façon, le leadership, après, ça dépend comment tu le définis, bien entendu.
Alors, définissons le leadership.
Oui, alors pour moi, le leadership commence déjà à l'intérieur. C'est un peu comme le Activia, ça se travaille, ça fait de l'effet à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Une fois que la personne a réussi à développer son potentiel intérieur en travaillant sur son comportement, son attitude, sa philosophie de vie, travailler sur ses prises de décision et surtout sa mise en action. Quand tout ça est travaillé à l'intérieur et déployé à l'extérieur en interaction avec son environnement et avec les autres, et bien du coup, pour moi, c'est ça le leadership. C'est déjà travailler sur soi pour ensuite avoir des interactions positives, agréables et utiles avec son environnement et avec les autres. Donc, c'est ce qui est différent, bien entendu, donc du management. Donc, je pense que c'est peut-être là aussi l'entreprise libérée, justement, est un modèle d'entreprise sans management presque, ou avec très peu de management. C'est-à-dire, on va pas gérer sous format pyramidal les personnes ou les projets. Ça va plutôt émerger des personnes en mode, justement, avec des petits groupes, avec un esprit plus entrepreneurial. Et c'est pour ça que je pense que le leadership, dans ce cas-là, est très important dans ces nouveaux modèles.
Donc, le leadership, c'est une maîtrise de soi?
Alors, je ne dirais pas une maîtrise de soi, parce que je ne pense pas qu'on se maîtrise soi-même totalement. J'imagine que c'est un travail d'une vie. Je dirais plus un travail sur soi, une gestion de soi, une culture de soi, mais des autres aussi. Comme je disais, ça commence à l'intérieur, mais ça continue à l'extérieur. Donc, c'est à la fois, on peut parler aussi des intelligences multiples, à la fois une intelligence intrapersonnelle, une connaissance de soi, gestion de soi, de ses émotions, de ses compétences, de justement avoir conscience de son comportement, de son attitude pour prendre les meilleures décisions et passer à l'action. Donc ça, on va dire, c'est de l'intelligence intrapersonnelle, mais c'est aussi de l'intelligence relationnelle, bien interagir avec les autres, des compétences comportementales, mais aussi communicationnelles, savoir bien s'exprimer, communiquer, faire attention aux autres. Donc je pense que c'est un mix des deux finalement.
Du coup, comment tu inscris le leadership en relation avec l'autre?
Ben, je dirais que c'est un art de vivre, tout simplement, un art de vivre qui n'est pas uniquement, bien entendu, basé sur la bienveillance, être sympa avec les autres, etc. La notion leadership est aussi liée à une notion performance, je dirais. Donc, c'est l'art de vivre avec les autres, mais en étant utile. Je pense qu'il y a une notion d'utilité sans forcément être utilitaire ou utiliser les autres, mais d'être utile aux situations, utile aux autres, et par exemple apporter son aide. Par exemple, dans le livre Le Reflex of Skills, on reprend une notion qui a déjà été abordée dans d'autres ouvrages, qui nous semble très inspirante, qui est la notion de leader-serviteur. Et par exemple, donc, il y a plusieurs styles de leadership, dont le leader-serviteur, qui est un leader au service des autres. C'est-à-dire, ça va être la personne qui va être là à l'écoute de ses collègues ou de son entourage et qui va apporter son service, apporter son écoute, être là pour donner des clés, faire avancer les choses. Et un leader est surtout serviteur, je dirais.
Mais du coup, un leader, c'est un meneur ou pas?
Un meneur par l'action. Ce n'est pas le meneur qui dit allez-y, c'est par là qu'il faut aller, je suis visionnaire, faites-moi confiance. Pour moi, un leader, c'est je suis en train d'aller là. Est-ce que, du coup, qui vient avec moi, on y va ensemble. Donc, pour moi, le leader, il est plus là pour inspirer les autres par l'exemple et du coup, en faisant, qu'en disant seulement où il faut aller, en montrant, en pointant du doigt, en fait. Donc, pour moi, un leader, c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui vraiment inspire par l'action en faisant.
Mais ça veut dire que dans un groupe de personnes, je pense à une interview que j'ai faite il n'y a pas longtemps d'un chef d'orchestre qui s'appelle Michel Podolak. Et c'est marrant parce que ce que tu es en train d'exprimer, c'est une vision que j'ai. Et donc, je vais parler de ce manager-serviteur, même si je ne l'ai pas exprimé comme ça. Et il m'a dit, non, le chef d'orchestre n'est pas au service du groupe parce que ça voudrait dire qu'il est en dehors du groupe. Et est-ce que, par exemple, donc quand je t'écoute, est-ce que en fin de compte, donc tu parles des compétences de leadership qu'on a chacun, elles s'expriment peu importe où on est, si on est en rôle de manager ou pas, et surtout si on devient serviteur, est-ce qu'on ne s'exclut pas du groupe ?
Après, je pense, je ne sais pas que, je n'étant pas chef d'orchestre,
non,
je ne sais pas trop comment
non,
ça
dans ta
fonctionne.
Vision, dans ta vision. Je ne parle pas du chef
D'accord.
d'orchestre. Je te donne juste ce parallèle parce
Oui.
que, en effet, moi qui pensais comme ça, quand il m'a dit ça, ben, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. C'est étonnant comme vision, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens de différents milieux
Bah oui.
parce qu'ils nous amènent une autre vision. Donc, je voulais un peu t'amener ce matériel-là pour voir, voilà, qu'est-ce que ça a évoqué pour toi?
Je trouve ça intéressant, comme tu dis, c'est un autre point de vue qui, du coup, enrichit le nôtre, bah justement en offrant d'autres angles de vue. Moi, je dirais que quand je suis au service des autres, je me sens dans le groupe, en fait, parce que, comment dire, lorsqu'on est au service des autres, c'est qu'on est dans l'action et que, bah, ça dépend comment, je vais reformuler, pour être plus clair. Si on prend une situation concrète, alors, par exemple, en entreprise, donc, il y a des groupes projets. Donc, imaginons qu'il y a un groupe projet et que ce groupe projet donc, a des actions, doit avancer, etc. Et qu'il y aurait une autre personne, telle D'Artagnan, qui soit un petit peu un électron libre et qui est là pour naviguer de groupe en groupe pour aider les groupes ponctuellement. Bah, ça, pour moi, c'est plus une approche de consultant où là, comme tu dis, donc, on va dire un électron libre externe qui va apporter un soutien ponctuel à une équipe. Pour moi, un leader serviteur n'est pas extérieur au groupe. C'est une personne du groupe projet qui, et de toute façon, en fait, tout le monde potentiellement peut être leader à un certain moment. C'est-à-dire que, bah, par exemple, bah, aujourd'hui, ça va être Alex qui va avoir plus d'énergie que d'habitude et qui va se rendre plus disponible pour son groupe. Mais Alex, il ne pourra pas faire ça tous les jours. Donc, peut-être que ça va être Caroline ensuite qui va reprendre le relais la semaine d'après de manière très naturelle, sans forcément que ce soit mis dans un calendrier, mais qui vont se relayer un peu comme un peloton en cyclisme, où il y a toujours donc, une personne en tête du peloton et il se relaie comme ça pour permettre aux autres de souffler. Moi, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je vois le leader-serviteur ou le leadership, plus comme un peloton où on ramène tout le monde devant. Mais que celui qui est devant, c'est pas toujours le même.
Mais du coup, la question qui me vient, c'est à ce moment-là, le leader n'est pas forcément toujours le manager.
Ah non, ah, pour moi, non, pas du tout. Pour
Ah.
moi, le leader, c'est mieux si un manager est leader aussi, bien entendu. Mais pour moi, on n'a pas besoin d'être manager pour être leader.
Ça veut dire que dans un groupe comme ça, je suis manager, j'ai une équipe, je peux faire tourner le leadership, c'est-à-dire que je peux faire en sorte que un jour il y ait quelqu'un de l'équipe qui soit plus leader sans perdre ma fonction de manager.
Ah ben je pense et je pense que c'est très sain de le faire. Je vais prendre un exemple concret, donc qui n'est peut-être pas de l'ordre d'une entreprise, mais en fait, dans l'aspect.com, on a créé un club dans lequel on a des cercles de mentorat collectif où chacun donc s'entraide et devient un mentor pour l'autre. Et ce qu'on a mis en place, c'est que tous les mois, il y a un leader tournant dans ces groupes pour organiser, mener groupe, mettre de l'énergie pour que les choses avancent. Mais entre guillemets, moi, je suis le manager de tout ça, c'est-à-dire que je gère donc la cohérence de ces groupes-là. Mais le leader qui va prendre en main la mise en action derrière va être une personne différente à chaque fois. Donc après, bah, les bénéfices sont énormes par rapport à ça. Le premier, bah, ça responsabilise les personnes et surtout toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « Ah, bah, de toute façon, bah, le leader, c'est un tel. Moi, c'est bon, je suis un peu plus peinard que les autres. » Non, parce que de toute façon, le mois d'après, ça va être toi. Donc, je pense que le côté responsabilisation est très puissant
Mais
par rapport à ça.
est-ce qu'on est tous à l'aise avec ça et est-ce que il y en a par exemple dans ton expérience qui n'ont pas envie d'être dans cette position de leader?
Bien sûr, mais on ne sait pas tant qu'on n'a pas testé. Donc, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on a goûté, testé, on peut dire si on aime ou on n'aime pas.
D'accord.
Donc, après, c'est mieux de le faire à petite échelle ou avec on va dire des projets qui sont de faible envergure pour se tester, bien entendu. Ça peut être de manière graduelle, mais je pense que chacun peut s'y essayer. Et aussi, pour revenir aux avantages, mais c'est d'un point de vue du manager, c'est génial. Parce que du coup, il n'est pas obligé de tout gérer parce qu'il fait confiance à d'autres personnes. Il peut déléguer quelque part. Donc, moi, je pense que c'est une approche qui est intéressante. Peut-être qu'il ne marche pas pour tout le monde, bien entendu, mais en tout cas, chez nous, ça a l'air de fonctionner et je suis assez satisfait.
Si on en revient au sujet, donc comment développer son leadership? Il y a des outils particuliers? Comment est-ce qu'on développe son leadership?
Alors, je pense qu'il y en a plein, 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 des outils, des techniques, des recettes, etc. Alors, moi, j'ai une approche assez particulière et je préférais m'y cantonner pour l'instant, qui est donc l'approche soft skills, dont Julien Bourret, que tu as déjà interviewé, en a déjà parlé, et
Ouais,
qui est aussi
mais je ne
mon.
me lasse pas d'en entendre parler, donc tu peux y aller. Et tout le monde n'aura pas forcément écouté l'interview de Julien, donc.
Oui, je fais un petit rappel sur que sont ces soft skills. Ce sont toutes ces compétences qu'on n'apprend pas à l'école, mais qu'on utilise tous les jours, comme l'écoute, comme la concentration, la motivation, l'adaptabilité, la gestion du temps, l'organisation, etc. Qui sont, au final, lorsqu'on y réfléchit, sont des compétences de leader. Un leader, c'est une personne qui arrive à s'adapter aux situations, qui arrive à gérer son stress, qui arrive à s'organiser, à être créatif. En cultivant ces compétences-là, ces soft skills ou ces compétences de leader, elle va inspirer ou inviter les autres à en faire autant aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer, que j'ai pu remarquer aussi chez mes clients en coaching, par exemple, qui me disent, lui, il a des entraînements soft skills, donc il s'est entraîné à être plus zen, par exemple. Et après plusieurs séances, en travaillant ça sur plusieurs mois, il se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs personnes de son entourage qui ont remarqué la différence entre le avant et le après, et qui lui demandent comment il a fait, comment il a fait pour devenir plus zen. Et finalement, ça a un effet contagieux quelque part. Donc, les soft skills, c'est ça, ce sont ces compétences-là qui sont très agréables à cultiver finalement,
Mais c'est un
parce que.
travail de longue haleine quand même.
Ah oui, bien sûr, c'est pas en claquement de doigts, il n'y a pas de recette miracle pour devenir plus efficace en
Mais du
15
coup,
jours.
tu accompagnes des gens, donc tu les aides à développer ces soft skills. Est-ce que, il est possible de le faire seul? Est-ce qu'il est possible de développer ces compétences seul?
Ah oui, bien sûr, de toute façon, il y a beaucoup d'autodidactes qui le font. On n'est pas obligé de passer par un coach ou un formateur pour développer ces compétences-là, étant donné que ces compétences-là sont des compétences humaines que tout le monde a déjà. Tout le monde a déjà une créativité. Après, elle a différentes teintes selon les personnes, elle est plus ou moins développée selon les personnes, mais chacun, avec de la volonté, peut développer ses compétences-là. Après, bien entendu, tu vas me dire, à quoi sert le coach alors?
Ah non, non, alors ça, je me serais même pas permis de demander. Je vois très bien à quoi sert le coach.
Mais du coup, après, c'est vrai que ça peut être donc avec un ami, par exemple, ou avec un groupe. Mais c'est vrai que se donner des défis et de pouvoir se référer avec quelqu'un d'autre, on va plus loin. Comme un coach sportif, on peut s'entraîner à faire de la course à pied ou à faire des pompes chez soi. Et c'est vrai on a une dimension supérieure lorsqu'on fait ça dans le cadre d'un club ou avec un coach, par exemple.
Et est-ce que tu es capable, je ne sais pas si c'est possible, de faire le constat de, à ton avis, on en est où que ce soit en entreprise de ça, de ces compétences émotionnelles, cette intelligence intrapersonnelle? Tu crois que c'est quelque chose qui est en train de se développer? On part de bas? Est-ce qu'on est déjà à un bon niveau? Parce que c'est assez nouveau tout ça, rien que la psychologie est assez nouvelle. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu es capable de faire un. Tu as remarqué des choses ou une direction? Est-ce qu'on évolue?
C'est vrai que j'ai pu avoir quelques retours terrain et le constat que je peux faire à mon niveau, parce que je n'ai pas fait d'études de marché, etc., de grande envergure là-dessus, c'est que ça, finalement, ça dépend vraiment des entreprises. Il y a des entreprises qui ont une culture qui, même s'ils n'utilisent pas le mot soft skills, ont une culture très avancée dans le développement de ces compétences-là. Et si ce n'est pas de manière très explicite, ça l'est au moins de manière implicite. Un
Qu'est-ce
exemple
que...
tout simple.
Ouais, voilà, un exemple. Merci.
Un exemple tout simple, c'est que souvent en entretien, on demande, il y a la fameuse question, quelles sont les trois qualités et les trois défauts? En fait, cette question-là, on pourrait tout simplement dire, quels sont vos soft skills qui vous différencient des autres? Parce que certaines de nos qualités ont leurs défauts et certains de nos défauts ont des qualités. En fait, c'est qu'une notion de compétence. Donc finalement, un recruteur va chercher à savoir quelles sont ces compétences qui ne sont pas techniques, mais qui pourraient nous différencier des autres. Donc je pense qu'en fait, toutes les entreprises de manière implicite cultivent et ont besoin ou développent, ou en tout cas portent de la valeur à ces compétences-là. Après, c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin lorsque c'est explicité, lorsqu'on a une vraie politique soft skills d'entreprise, et je pense qu'on tend de plus en plus à ça.
Ouais, c'est marrant parce que je fais des turbines à bonheur et je travaille notamment pas mal sur les talents avec des très grands groupes et je vois à quel point, suivant où je les fais, les gens vont être capables de citer, je sais pas, 10 de leurs talents et dans d'autres cas où ils n'arrivent même pas à en trouver un.
Ouais.
Ce qui est complètement fou, donc il y a des disparités énormes. Je te remercie, on est arrivé au bout de nos 20 minutes et maintenant, c'est le moment du super questionnaire. J'aimerais bien avoir un petit jingle là, mais
Ouais.
j'ai pas de régie, donc on va faire ça assez simplement. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose, on passe au questionnaire.
Ok, bah juste peut-être un dernier mot
Oui,
sur ces compétences-là. Tout à
dis-moi.
l'heure, on parlait juste pour boucler la boucle avec le roman, en fait, dans ce roman post-capitalistique. En fait, là-dedans, bah, je parle aussi de qu'est-ce qui survivra à n'importe quel système. Et je pense que ces compétences-là, ces soft skills, sont les compétences qui survivront à n'importe quel système, qui transcendent n'importe quel système, étant donné que ce sont des compétences qui seront utiles en n'importe quelle situation. La créativité, qu'on soit dans le
Mais
capitalisme ou pas.
tu me relances là, tu exagères, on va dépasser le temps, mais ce que j'ai envie de te dire, si c'est justement peut-être parce que ces compétences ne sont pas assez développées qu'il y a autant de violence dans le monde et que le système peut s'écrouler. Si j'imagine le scénario le pire possible, on pourrait revenir vraiment à aller encore plus loin dans notre bêtise et dans notre violence, dans notre façon très... presque archaïque de gérer nos émotions et le monde, que nos peurs prennent le pas sur tout le reste. Tu crois que c'est la seule chose qui ne peut pas être détruite, ça, les compétences relationnelles et j'en doute en fait.
Ouais, je pense que comme c'est profondément humain, et on le voit en fait à chaque fois, comme tu dis là, on pourrait repartir pour 20 minutes. Mais j'essaie d'être très
C'est
très
trop.
simple. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que quand tu as un extrême, tu as l'autre extrême. Donc on voit l'extrême de la bêtise, désolé, je vais peut-être parler politique, mais Donald Trump, etc. Et que tu vois l'autre extrême, où tu vas voir un mouvement de personnes qui vont faire remonter. Remettre à la surface toutes ces valeurs-là. Et finalement, c'est ce dont j'en parle dans ce livre-là, la nouvelle civilisation, c'est ça. C'est cette civilisation qui est en train d'émerger pour recréer un équilibre avec ce qui est existant et qui est en train de s'autodétruire, en fait. Et moi, ma vision, c'est ça, c'est que de toute façon, on ne peut pas continuer à s'autodétruire, etc. Bah, si c'est le cas, bah,
Ah,
ça va
que
être la
j'aime
fin.
les optimistes comme toi. Après, des fois, je me dis que vraiment, quand on voit notre histoire en tant qu'humanité et le fait qu'on apprend très lentement quand même sur ces sujets-là, sur le sujet du progrès personnel et du progrès sociétal, j'ai l'impression que depuis la nuit des temps, on s'égorge. Ça y est, je vais donner le spleen à tout le monde, donc je vais arrêter ça tout de suite. Non, non, j'ai pas une vision. Moi, je suis aussi optimiste, mais je crois que là, on est encore dans quelque chose de très dans la dualité, et qu'en effet, peut-être que une des pistes, et j'en discutais là cet après-midi avec une amie, est l'éducation et d'apprendre et d'enseigner ces soft skills aux enfants. Je viens de faire ma première turbine à bonheur avec des enfants ce week-end. C'était extraordinaire. Ils ont une capacité à se relier aux autres qui ensuite est... Et tout fait, parce que là je l'ai fait aussi avec des plus grands, et ils perdent cette spontanéité, cette envie d'être en relation, qui leur fait plus peur, quoi, j'ai l'impression, en vieillissant. Mais bon, on a drôlement dépassé le temps imparti à cette... Je te laisse conclure sur ce sujet. Remettre une touche de positif dans tout ça.
Ok. Mot de la conclusion, c'est que miser sur vos soft skills, c'est le meilleur investissement à long terme que vous pouvez faire.
Et en plus, c'est un long... T'as vu, je peux pas te laisser avoir le en plus. C'est ça, les despotes, ils sont comme ça. Et en plus, je pense que ça aura un impact sociétal et que c'est vraiment capital, en fait.
Oui.
Donc, j'ai quand même dans ton sens.
Merci.
Non, tu n'es pas venu ici pour que je te contredise systématiquement, ce n'est pas le but. Est-ce que tu es prêt pour le questionnaire?
Hein, oui.
Tu peux plus dire non, en fait, maintenant.
Oui, tu es
obligé de dire oui. Donc la première question du questionnaire, c'est quelle est la pire erreur que tu aies faite dans ta carrière et quelles leçons en as-tu tirées?
Alors, pour moi, j'en ai fait tellement, ce n'est pas évident. Du coup, j'ai essayé d'en choisir une. C'était, Je m'étais associé avec une personne pour un projet où on voulait faire quelque chose de fun, on était ambitieux, et du coup on s'est dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire 50-50, etc. Et du coup on a commencé à avancer, et au final je me suis retrouvé à faire la partie technique, la partie logistique, la partie relationnelle, la partie communicationnelle, et au final lui il n'a pas fait grand chose. Et comme dès le départ, on s'est dit, on va faire 50-50, mais on n'a pas dit qui fait quoi, je me suis fait un petit peu avoir, on va dire. Et ce que, du coup, j'ai appris, parce que comme tu dis, chaque erreur, en fait, ce n'est pas la pire erreur, je dirais, c'est la meilleure erreur que j'ai faite, parce que c'est le plus gros enseignement que j'ai eu, c'est de bien cadrer une collaboration. C'est vraiment pour éviter cette frustration qui est horrible à vivre, c'est de bien cadrer, alors pas forcément sur un contrat. Je ne suis pas un fan des contrats, mais déjà bien définir sur papier et mail, ou papier ou mail, qui fait quoi, en fait, de manière très simple.
Même si tu fais ça, est-ce que dès le début d'un projet, on peut savoir qui est bon à quoi?
Non, on ne sait pas, mais au moins, on a un référentiel pour dire, tu n'as pas respecté tes engagements, et du coup, ça permet de manière très objective d'avoir un support.
Oui.
Pour relancer la personne et recadrer la collaboration. Et ça fait un référentiel à la fois pour l'autre personne, en disant, de manière très objective, t'es pas là-dedans. Et aussi pour toi, pour moi en l'occurrence, là, quand je fais ça maintenant, ça permet d'avoir un référentiel pour voir où j'en suis dans ma relation professionnelle avec cette personne-là.
Je suis très loquace aujourd'hui parce que j'habitais aux États-Unis. Il y a une émission qui s'appelle Dr. Phil et il parlait du mariage. Et il parlait de ça, de parler, et c'est comme un mariage, une association.
Ah oui.
De parler en amont du mariage, de OK, tu veux combien d'enfants ? Toutes ces choses qu'on n'ose pas parce qu'on est dans une association, on veut plaire, parce qu'on veut que ça se passe bien. Et donc, on ne pose pas les questions qu'on croit pourraient fâcher. Alors que quand elles s'enveniment plus tard, elles font bien plus mal que de les poser d'entrée de jeu, quoi. Et c'est un peu ce que tu dis, c'est de poser un cadre et de se poser les bonnes questions sur l'association.
Je suis tout à fait d'accord, vaut mieux piquer avant que piquer pendant. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus douloureux de faire face à tout ça pendant et de ne pas y être préparé qu'avant. Parce qu'au pire, qu'est-ce qui peut se passer avant? Imagine que ça pique, que ça dérange l'autre. À la rigueur, vaut mieux pas collaborer avec cette personne si ça la dérange trop. Donc, ça, c'est le pire des cas. Et au final, c'est pas un mauvais scénario, parce que tu t'es empêché d'avancer dans une mauvaise collaboration, entre guillemets. Et dans le meilleur des cas, la personne, elle trouve ça rassurant, parce que ça veut dire, au moins, t'es pas langue de bois et que t'es pas non plus quelqu'un d'hyper trop optimiste, justement, l'optimisme aveugle, comme dirait Philippe Gabillier, où tu pars du principe que tout va bien aller. Donc, je pense que c'est intéressant par rapport à ça, oui.
Merci. La deuxième question, c'est quelle technique ou outil t'a le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Alors, j'ai trouvé trois outils. La première, c'est les fameuses techniques méditatives dont tu as parlé, Julien. Je refais la pub pour son podcast. Mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour la connaissance de moi-même, pour la gestion de mon énergie, la gestion de mon stress, que je suis quand même quelqu'un de très anxieux. Et ça fait énormément de bien personnellement d'abord et du coup professionnellement.
Et ça fait longtemps que tu médites?
Ça va faire au moins plus de 4 ans,
Et
4-5
est-ce
ans.
qu'il y a une évolution dans la pratique? Ça a été difficile au début ou c'est quelque chose qui t'est venu naturellement?
Ah ouais, non, c'était super compliqué au départ, sachant que je suis quelqu'un d'hyperactif, que j'ai 100 000 pensées à la minute. Donc c'était un entraînement. J'ai pris ça comme un. Comme par, je suis pratiquant en arts martiaux et j'ai pris ça comme un art martial en fait, de pratiquer, de m'entraîner. C'était un entraînement du mental et d'être attentif à mes évolutions sans forcément d'avoir d'objectif. Donc du coup, plus je pratiquais et plus j'aimais ça. Un peu comme la course à pied. Au début, ça c'est pas très agréable, mais après tu peux plus t'en passer parce que tu as ce shoot de dopamine. Et pour moi, c'était ça.
Et tu
Et
rentres
c'est
dans la
toujours ça.
secte des coureurs, qui ne parlent plus que de
Exact.
ça et qui
Et
nous
voilà.
énervent.
Et voilà. C'est pour ça que j'en parle pas plus.
Ça vu, je commence à m'énerver. Ok, tu voulais parler de deux autres outils, c'est ça?
Oui, la deuxième, c'est tout bête, mais c'est les to-do list. C'est quelque chose
Super.
que j'essaie d'avoir des objectifs pour mon moi, que ce soit enfin, au mois, donc que ce soit professionnel ou personnel. Donc j'ai dit, voilà, j'ai ces 30 tâches à faire pendant le mois. Et après, tous les jours, je commence à faire ma liste de tâches. Je priorise et je fais. Et ça me donne beaucoup plus de visibilité sur ce qui doit être fait et ce qui est fait. Et je fais ça à l'écrit et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'aide toujours aujourd'hui.
D'accord. Et le dernier?
Et le dernier, c'est ce qu'on a fait dans la première question, en fait, c'est de transformer toutes mes erreurs en enseignement, puis en bonne pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement prendre conscience d'une erreur et dire ah oui, je ne ferai plus. C'est tout de suite après, je me dis qu'est-ce que je peux faire tout de suite dans la foulée pour soit corriger ça, soit mieux faire pour les prochaines fois. Et ancrer en fait l'enseignement par une pratique pour que ce soit vraiment concret.
Fabuleux. Donc j'en demandais un, tu m'en as donné trois. Donc on passe à la question suivante. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Et pour moi, si je vais me répéter,
Ah,
c'est.
ne me parle pas de Julien, attention, hein.
Non, je vais parler de soft skills par
Ah,
contre.
c'est normal.
Pour moi, c'est vraiment gérer, cultiver ses soft skills et inspirer les autres à en faire autant. C'est vraiment d'avoir cette envie de se développer, de se cultiver, toutes ces compétences qui nous rendent meilleurs en fait. Et d'inspirer les autres à en faire autant sans leur donner de leçons. En fait, et ça sert en fait une posture de mentor quelque part. Je trouve que ça, c'est une qualité très importante du manager, plus importante que cette qualité de coach. Pour moi, la qualité de mentor est hyper importante dans la mesure où quand on a cette posture, cette attitude, on va partager une expérience personnelle à l'autre comme une histoire, quelque chose qui peut être pris ou pas par l'autre d'ailleurs, hein, c'est pas obligé, on raconte une expérience personnelle, mais qui va être utile pour la personne. Donc c'est pas juste pour se la péter, se montrer, etc. C'est par rapport au contexte de la personne, par rapport au contexte de la situation, raconter une expérience
Mais c'est ça être un
vécue.
mentor? Parce que qu'est-ce que t'appelles un mentor?
Alors, j'ai suivi la formation de Yves Richez qui est spécialisé là-dedans, et pour lui, un mentor, c'est une personne qui est en mesure de partager une expérience qu'elle a vécue, qu'elle a accumulée, à une autre personne, et qui soit utile pour cette personne à ce moment-là.
D'accord. Tu
Donc,
peux redonner Yves comment?
Yves Richez.
Richesse, d'accord.
Il a créé Talent. Non, c'est comment Talent Reveal, voilà, pardon.
Talent Reveal.
Voilà.
Ok. Il est de quelle nationalité?
Et il est breton.
C'est vrai, parce que je me
Oui.
disais c'est français ça, c'est
Ben oui.
D'accord. Quel livre conseillerais-tu à la lecture?
Alors, j'allais faire la pub du Reflexo Skills, mais je ne vais pas
Ah
le
non, là
faire.
t'as pas le droit, c'est ça c'est interdit.
Non, plus sérieusement, il y a un livre que j'ai adoré dernièrement, mais il est en anglais, je ne sais pas s'il est en français. C'est un livre de Lewis Pugh, c'est 21 Yaks in a Speedo. En fait, c'est un sportif extrême qui est le seul à avoir nagé en Speedo dans tous les océans du monde, dont notamment en Arctique et en Antarctique. Il a même nagé dans le plus haut lac du monde qui est dans l'Himalaya, sur la route de l'Everest. Et je trouvais son histoire hyper inspirante, la manière dont il a tourné les choses. Donc Lewis Pugh est pour moi quelqu'un de très inspirant.
Donc, ce qu'on trouve dans ce livre, c'est quoi? Ça t'a inspiré à quoi?
Il y a plein de choses. Déjà, d'un point de vue sportif, j'ai
Sur le
trouvé
dépassement
ça.
de soi?
Oui, déjà, dépassement de soi sur comment faire face à des situations extrêmes.
D'accord.
Il y a plein d'enseignements. En fait, c'est vraiment une attitude de mentor à l'écrit. Il raconte en fait des expériences qu'il a vécues. Donc, par exemple, le fait qu'il a nagé 1500 mètres dans une eau à moins 1 degré, donc au pôle Nord. Et il racontait donc mentalement comment il souffrait physiquement, mais que en fait, ce qu'il a retenu de cette expérience, il y a 21 chapitres, il y a 21 exploits, et sur chaque exploit, il y a un enseignement qui peut nous inspirer. Et donc là, en l'occurrence, c'était de penser à tous les à chaque 100 mètres. En fait, il ne pensait pas aux 1500 mètres. Il dit, voilà, je vais faire ce 100 mètres-là. Et après, je vais faire le 100 mètres prochain. Et c'est finalement décomposer son objectif en plusieurs sous-objectifs pour garder la motivation. Et
D'ailleurs, ce qu'il nous
garder.
faudrait même à un niveau national, parce que des fois on se sent complètement écrasé par nos objectifs environnementaux, nos objectifs économiques, et donner des petits buts à atteindre, en effet, ça nous décomplexe.
Tout à fait.
Ok, ça a l'air bien ce livre. Et ben, ce sera dans la description du podcast
OK.
à retrouver. Et on va finir avec. Quelle citation t'inspire?
Alors, il y a un mantra que je me dis régulièrement, justement dans le domaine du leadership, c'est un entrepreneur fait, un leader est. Et un leader entrepreneur fait ce qu'il est et est ce qu'il fait.
Wow!
Et j'essaie de me rappeler ça à chaque fois pour pas oublier le fait d'être et de se sentir vivant, d'incarner vraiment dans sa posture, dans son attitude, etc. Mais pas oublier de faire non plus. Il n'y a pas uniquement être dans l'être, etc., d'être bien, méditer, tout ça, mais aussi d'être dans l'action.
Et
Et
qui a
pour
dit ça?
moi, après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'ont dit.
Ah, c'est vrai, c'est
Oui,
toi qui. C'est ta
c'est
propre citation. Ah, mais c'est la gloire. Alors, redis-moi, un entrepreneur fait, un leader est.
Et un leader entrepreneur fait ce qu'il est et est ce qu'il fait.
D'accord.
Alors, je sais pas si c'est une citation, en tout cas, c'est un mantra que je me suis créé, entre guillemets, pour me booster au quotidien.
C'est chouette ça de se créer un mantra qui nous correspond
Ah,
et
bah,
qu'on
je
aura
pense que
écrit soi-même.
je pense que c'est super important. C'est super important, plutôt que de prendre des citations des autres qui sont très inspirantes. Moi, j'adore les citations. Mais du coup, le fait d'en s'en créer une, ça, c'est plus personnel, c'est plus énergisant, je trouve.
Ça me donne des idées de modules ça pour mes
Ouais,
turbines. Donc merci beaucoup. Nous sommes arrivés au bout du questionnaire. Félicitations, tu as
merci.
passé, tu as passé toutes les questions sans problème. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, on peut me retrouver. Je n'ai pas préparé cette question. parce que étant slasher, c'est pas forcément évident. Non, on peut me retrouver sur jerome-waro.com. C'est mon site qui regroupe tous les autres, entre
Ce
guillemets.
sera aussi dans la description du podcast.
Et
Pour qu'on puisse retrouver ton
sinon,
site.
sinon, il y a Créa Présent aussi pour ceux qui veulent en savoir plus sur les soft skills.
Et tu es présent sur les réseaux sociaux? Tu es un
Oui,
utilisateur?
sur Twitter, alors c'est Giro974
Ok.
pour la Réunion.
Ah, c'est ça.
Oui, j'ai créé ce compte Twitter il y a très très longtemps. et sur, ouais, sur Facebook aussi, j'ai des pages, enfin, j'ai une page professionnelle, on peut le
Mais
trouver
je
assez.
suppose que sur ton site, on retrouve tous les autres liens pour
Oui,
te
assez
retrouver sur
facile.
les réseaux sociaux.
Même si on tape sur Google, hein, a priori, je remonte assez facilement.
Bon, eh bien, nous avons explosé le timing, Jérôme.
Ah, merci à toi pour avoir toléré cette explosion.
Ah non, mais j'ai activement participé à cette explosion, donc je veux dire, nous sommes co-créateurs de cette explosion. Okay. Ça a été un très grand plaisir de discuter avec toi, d'explorer même le futur du monde et de ce qui pourrait se passer dans cette société. Merci beaucoup pour ton optimisme et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Bah, merci beaucoup à toi pour cette énergie que tu déploies dans ce podcast, et parce que ça n'aurait pas donné ça sans ce que tu y apportes. Et c'est super, j'ai passé un très bon moment, je crois que ça s'est entendu.
De même. Et à tout le monde, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.
Merci à tous et à tous aussi, au revoir.
Et avant de finir ce podcast, je voulais vous dire un énorme merci. Grâce à vous, le podcast de Moodstep s'est classé sur le podium dans la catégorie entreprise et économie. Et il est arrivé même au 92e rang, donc dans les 100 meilleurs podcasts, toutes catégories confondues, entouré par Tim Ferriss et France Inter. Je suis aux anges, et tout ça, je vous le dois, c'est grâce aux petites notes et au fait que vous êtes abonnés. Donc merci, j'espère pouvoir rencontrer encore des gens passionnants et que vous y trouverez des choses significatives pour vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Très belle semaine à vous.